500 000 ou 2 millions, tu vas pas plus aux toilettes, t'as pas plus de stationnement, t'es pas plus utilisateur de l'espace public.
Je vais te relayer ce que les maires mairesse disent depuis 4-5 ans. Il est temps qu'on aille au-delà de la taxe foncière. On est prisonnier de ça.
On va aller plus loin que ça. La dévitalisation du centre-ville et le télétravail ont rendu ton centre-ville et ton poumon économique beaucoup moins puissant qu'avant. Mmh. Alors, tu peux taxer moins d'entreprises, t'es moins attirante, le pied carré vaut moins cher, et donc, ta ville est comme un peu en insuffisance cardiaque.
OK, mais les sociétés de transport sont déficitaires. Oui. Qu'est-ce qu'on fait?
Bonne question, en fait. Moi, il y a deux options là-dedans. Tu peux être bipolaire là-dedans. Tu peux te dire d'un côté, plus on a un transport en commun efficace, pas cher, plus le monde l'utilise, moins l'automobile est logique. Donc, ça permet aux gens de quitter le côté économique de la voiture. D'un autre côté, tu dis, tous les transports ont une valeur. C'est-à-dire que moi, si je me transporte, faut pas qu'on m'envoie un mauvais signal de prix. Si je prends le métro pour me rendre dans un souterrain jusqu'au centre-ville, jusqu'à quel point on doit me subventionner et dire à l'utilisateur que ça doit être un service relativement à faible coût. Alors, c'est trouver le juste milieu. Et je dois être honnête, c'est que je suis d'accord vraiment avec l'idée que si on avait un transport totalement efficace, pas cher, l'automobile sera abandonnée par tellement de monde pour des raisons économiques.
Mais en même temps, c'est la poule ou l'œuf. Le système est pas efficace, donc les gens prennent leur char. Les gens prennent leur char, donc le système de transport en commun est moins efficace aussi.
Aussi, mais dans le moment, qu'est-ce que tu fais? Tu fais augmenter les valeurs économiques des immeubles qui sont proches des transports en commun. Tu donnes des avantages à ceux qui sont proches des transports, donc c'est facile pour eux. Et trois, tu ne fais que leur donner des bonbons. Et donc, on est en train de déplacer l'avantage économique d'être Montréalais vers les gens qui restent à côté du métro Saint-Michel, Laurier, Mont-Royal, Pinneuf, au détriment des autres qui sont aussi dans le poumon économique de Montréal. Tu sais, si t'es, par exemple, je sais pas moi, tu sais, à une rue au nord de Bellechasse, tu sais, t'es à la 27e avenue dans l'Est, t'es mal desservi par les transports, t'as pas de commerce de proximité vraiment attirant, t'es comme en banlieue en ville, mais on t'as la charge fiscale comme si t'avais les mêmes avantages que les autres et on te demande d'avoir la même réalité alors que si t'as trois rendez-vous dans une journée puis tu veux prendre le transport en commun, fiscalement ou financièrement, ça se peut moins. Il y a des journées, Patrick, où je te donne un exemple. Je me retrouve ici avec toi, je peux être dans l'Ouest le matin, puis je peux être à Saint-Jérôme le soir. Tout ça dans la même journée. Mon côté homo economicus vient au transport en commun le matin. Mais si il faut que j'aille à Saint-Jérôme dans la même journée, ça se peut que je prenne ma voiture pour aller à l'autre place. Donc, je comprends que je dois payer la taxe. Mais si je me retire puis je regarde, par exemple, quelqu'un qui travaille en vente, en service, quelqu'un qui va faire des réparations de ta laveuse Maytag, là, avec son petit coffre à outils.
Pourra pas le faire en métro.
Ben, il peut bien, mais tu sais, on s'entend-tu que ça commence à être compliqué.
Métro Bixi, c'est un beau cocktail.
Ben, moi, j'aime beaucoup le côté cocktail. T'as dit un beau terme. Un cocktail, tu m'attires avec l'alcool. J'adore les cocktails. Mais, le métro Bixi, autobus, le cocktail des transports, t'as raison, il est intéressant.
Mais c'était central, Pierre.
C'était central. Mais moi, quand des gens font des articles puis ils disent « Ah, moi, ma vie est parfaite parce que je prends le transport en commun avec mon enfant, j'ai pas d'auto, je demeure à deux pas du métro puis je vais toujours travailler à la même place à côté d'un certain métro », c'est sûr que le commun des mortels t'écoute puis dit « Hey, on est 8,9 millions de Québécois, là. » Puis les gens qui sont proches, là, parlent à très peu de personnes.
Merci, Pierre-Yves.
Salut.
On se retrouve demain.
Consommer encore plus de ces fixes, c'est faisable et c'est facile. Pour consulter toutes nos nouvelles et nous écouter en direct, consultez directement notre site internet cfixrimouski.com. Mais ce n'est pas tout. Pour les concours et entrer en contact avec nous, allez sur notre page Facebook Les fans de CFX 93 Rimouski. Pour être informé dès que nous obtenons une information, rendez-vous sur notre compte X CFX FM 93. Et simplement pour avoir des nouvelles de l'équipe, rendez-vous sur Instagram au CFX FM 93. Qu'est-ce que vous attendez pour nous suivre?
Dominant ou dominé? N'hésitez plus, venez faire votre choix parmi une vaste collection de produits BDSM et fétiches chez Sensation Plus. Partagez le plaisir. SensationPlus.com. Livraison rapide et discrète.
Nissan, ça sent le printemps!
Oui, Karine, avec les tulipes.
Les jonquilles.
Puis les sièges flambants en 9 et 0 gravité de la Sentra 2024 dessinés.
Hey, on aime ça humer des sièges d'auto, hein?
Ouais, ça sent tellement bon quand c'est neuf.
Louez la Nissan Sentra S Plus 2024 avec technologie de conduite dynamique à partir de $267 par mois pendant 24 mois, incluant une réduction de taux de 3%.
Jusqu'au 30 avril, à compte de 2199 $, valeur de 26 917 $ sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Vous écoutez CFX 93.3, qui diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103,1. Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles. 10 mois après la fin de la finale des Jeux du Québec, l'organisation rencontrait la presse régionale afin de faire le point sur l'événement. Tel qu'anticipé, la ville de Rimouski comblera un déficit d'exploitation moins élevé que prévu. Celle-ci va éponger un déficit de 256 000 $. La contribution totale de la ville aux Jeux se chiffre à 2 millions de $, soit 1,3 million en contribution financière et 654 000 en prêts d'équipement et de services. En infrastructure, la ville a investi 7,5 millions de $, ce qui inclut la contribution versée par le gouvernement du Québec à toutes les villes hôtesses des Jeux, soit 5 millions de $. Le legs des Jeux, a expliqué la directrice de la 57e édition, Chantal Pilon, se mesurera sur plusieurs années en ayant donné le goût de bouger à des milliers de jeunes. La ville s'enrichit aussi d'équipements sportifs permanents et de grande qualité comme la piste d'athlétisme et le nouveau site de tir à l'arc. La ville de Rimouski a procédé la semaine dernière à l'ouverture des soumissions pour des travaux de voirie à être effectués dans le secteur du futur Costco. Une seule entreprise a répondu à l'appel d'offres lancé par la Ville le 22 mars dernier. Il s'agit des excavations Léon Chouinard et fils de Grand Métis et de Rimouski, qui a déposé une offre chiffrée à 4 908 000 $. Les travaux consistent en la prolongation du boulevard Arthur-Buis vers l'est, l'élargissement d'une portion de la montée industrielle et de la préparation de 2 terrains commerciaux destinés à une vente future par la Ville. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la venue éventuelle du géant du commerce au détail américain, Costco. Et un homme a connu une fin tragique lors d'une sortie de route ce matin sur la route 132 vers 6 heures à Capcha. L'homme dans la vingtaine était seul à bord de sa voiture. Il a été conduit dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. Pour consulter toutes nos nouvelles, visitez le cfixrimouski.com.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Ah! 17h38. Salut Valérie.
Salut Patrick.
Donc le procès historique et procès criminel de Donald Trump, ça a commencé officiellement aujourd'hui. Comment ça s'est passé?
Oui, c'était la première journée, donc il y avait les 12 membres du jury qui étaient présents, bien sûr Donald Trump, parce que c'est l'accusé, il n'a pas le choix d'être là à partir d'aujourd'hui. Ce matin, on a donné des instructions aux membres du jury, justement de rappeler que Donald Trump est innocent jusqu'à preuve du contraire, qu'il a la question du doute raisonnable. Donc s'il y a un doute, on doit l'acquitter. On a parlé des chefs d'accusation, puis ça a été vraiment l'ouverture du procès où on a parlé des arguments de part et d'autre. Donc, la présentation, entre guillemets, de la preuve des procureurs, ceux qui poursuivent Donald Trump et de l'autre côté de la défense. Donc, on a une idée déjà de leur stratégie pour cette poursuite. Et c'est allé assez rapidement. Là, je t'en parlais tout à l'heure en introduction d'émission. On a déjà entendu un premier témoin. Le premier témoin, c'est qui? C'est David Pecker. Pour les gens qui ça leur dit rien, c'était le roi des tabloïds il y a quelques années, propriétaire ou plutôt éditeur du National Enquirer. Donc, c'est vraiment, là, ce matin, on expliquait comment qu'on achetait des histoires, soit pour les publier ou soit pour les tuer, pour reprendre l'expression en anglais, la traduction littérale.
C'est ça. Avant que le numérique explose comme ça, le National Enquirer, par exemple, Valérie, là, était spécialisé dans les histoires croustillantes. Mais ce qu'on apprend ces derniers temps, dans le cas de M. Trump, il faisait pas juste les publier, des fois... Ils achetaient les histoires et ils les enterraient au bénéfice de personnes comme M. Trump.
Oui, il y avait un code au sein des gens qui travaillaient au National Enquirer. Quand il y avait le code FOP, c'était Friend of Pecker. Pour, en disant que c'était ses amis, donc il y avait une liste de gens que si on mettait la main sur une histoire, on avait vent d'une histoire, parce que c'est vraiment des ragots, là, des potins. C'est pas des histoires qui sont totalement vérifiées dans plusieurs cas. Après ça, ben on disait, il faut qu'on empêche cette histoire-là de voir le jour. Alors, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on parle peut-être à M. Trump pour lui dire, ben paye pour que l'histoire disparaisse.
Et pour en ajouter au côté un peu croustillant, Pecker, dans le jargon anglo-saxon, ça désigne aussi, c'est pas juste un nom de famille de l'éditeur, ça désigne aussi l'appendice sexuel mâle. OK.
Voilà.
Est-ce qu'on sait si Michael Cohen, l'ancien avocat qui a viré sa veste de M. Trump, et Stormy Daniels, l'ancienne star du porno là, qui aurait été sa maîtresse, vont témoigner?
Assurément pour Michael Cohen, parce que le procureur en a déjà parlé dans son ouverture en disant, vous allez voir, Michael Cohen, oui, a déjà menti, parce que lui, je rappelle qu'il a quand même fait de la prison pour avoir fait ce paiement à Stormy Daniels, pour avoir violé des lois électorales, mais ce que le procureur a dit, il est prêt à raconter son histoire, et vous allez voir que tout ce qu'il dit, on va le corroborer avec d'autres histoires ou d'autres documents, parce qu'on va avoir des messages textes, des courriels, des enregistrements, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, alors on va vraiment appuyer ça de faits clairs. Clair, selon, bien sûr, les procureurs. Alors, ça, c'est quand même un élément qui est nouveau. Et pour Stormy Daniels, ben, disons que la défense s'imagine que Stormy Daniels va être là parce qu'ils en ont parlé aussi en disant que finalement, elle voulait juste faire de l'argent. C'était son gagne-pain, qu'elle avait utilisé la notoriété de Donald Trump pour aller soutirer de l'argent dans un premier temps. Et elle voulait continuer de vivre avec les sous de M. Trump, ou plutôt les sous en ce moment des journalistes et des gens qui payent pour l'entendre.
Demain, c'est la deuxième journée d'un procès là, qui pourrait durer 6 semaines. Est-ce qu'on prend directement avec les témoignages de l'ancien éditeur du National Enquirer?
Et tu sais que c'est jamais très simple, hein, les procès de Trump. Il y a toujours des procès ou des audiences en parallèle. Alors, je vais essayer de mêler personne. Oui. Mais non, on ne commence pas directement avec ça parce qu'à 9h30, on n'est pas avec le jury, mais on est vraiment avec les avocats et M. Trump pour déterminer si Donald Trump a déjà violé le fameux bâillon partiel qui est imposé. On s'en est parlé à plusieurs reprises. Mm-hmm. Il peut pas parler, par exemple, des membres du jury, intimider des témoins potentiels, parler des membres de la famille, des gens qui travaillent à la cour, que ce soit le juge, les procureurs ou autres. On a vu dans un autre dossier qui attaquait la greffière. Bref, sinon, il y a des amendes qui sont associées à ça et même de la prison si on finit par ne jamais respecter cette règle-là. On dit qu'il y en a pour 7 000 $, ça c'est les procureurs qui disent ça, d'amendes potentielles pour Donald Trump parce qu'il aurait, selon eux, violé déjà, avant même que le procès commence, cette entente-là, cette directive plutôt-là. Donc, demain, le juge doit déterminer s'il paiera ce 7 000 $ qui est déjà la première peut-être d'une longue lignée.
J'ai vu en fin de semaine, Valérie, qui a déjà commencé à s'en prendre, il a continué à s'en prendre au juge.
Oui, le juge a le droit, par exemple. Le juge et le procureur, il a le droit de s'en prendre à eux. Mais okay. est-ce que ça peut l'aider dans sa cause? Je ne pense pas. Mais il a le droit parce que c'est des personnalités publiques dans ce dossier-là. Mais tout ce qui est autour du juge et du procureur, c'est interdit d'en parler. Autant les membres du jury, comme je te disais, que les témoins, ou entre autres la fille du juge, là aussi, qui a été attaquée par le passé. Et à 11h, là, on reprend le témoignage de David Pecker, qui va continuer d'expliquer, de mettre la table. Juste dire qu'il a une immunité. Je l'ai précisé. Donc, c'est pour ça que c'est un témoin des procureurs. Il a une immunité, donc il ne peut pas être poursuivi pour ce qu'il va dire dans ce procès-là.
On peut le dire, là, M. Trump, Valérie, a une attitude de défi. Hein? Il dit que c'est un procès politique. Il dit que tout ça est arrangé par Joe Biden. Ceci étant dit, au-delà de son attitude de défi, est-ce qu'on sait ça va être quoi l'effet du procès sur sa campagne électorale?
Ça dépend si on se fie à l'effet des autres procès. Parce qu'il y a quand même eu 2 procès au civil. Il y a eu des apparitions de Donald Trump en cours. Il y a eu en Géorgie, il a fait prendre sa photo, sa fameuse mugshot. Donc, on sait déjà l'effet, disons, des tribunaux. Alors, si je me base là-dessus, ça aide Donald Trump au niveau du financement. Ça ne va pas lui nuire au niveau des intentions de vote. Au contraire. Alors, si on part de cette prémisse-là, ça ne veut pas dire que s'il est reconnu coupable, qu'il va automatiquement, pour moi, disons, perdre l'élection. Par contre, ça dépend des révélations qu'on va avoir. Et ça dépend aussi que si les indépendants, puis certaines personnes se disent, eh là, il va aller en appel, puis on a encore des procès à venir. Est-ce qu'on veut vraiment entrer là-dedans, puis toujours être en train de parler des problèmes judiciaires de Donald Trump et non de ce que le pays veut pour avancer? Tu sais, ça reste qu'on parle juste de ça, là.
Je veux qu'on parle une seconde de ce qui s'est passé au Congrès en fin de semaine. Tu sais, on dit souvent que le Parti républicain s'est rendu le parti de Donald Trump. Il lève le petit doigt et tous les législateurs républicains lui obéissent. C'est pas ce qui s'est passé dans le vote sur l'aide à Taïwan, Israël et surtout l'Ukraine. Monsieur Trump a perdu, entre guillemets, ce vote-là parce qu'il voulait pas aider l'Ukraine. Non. Plusieurs républicains qui ont voté avec les démocrates et l'Ukraine va recevoir de l'aide. Ça dit quoi sur l'influence réelle de Trump?
Mais c'est qu'il c'est, il y a une influence quand ça vient pour des choses peut-être différentes. Est-ce qu'ils vont l'appuyer, lui, ou non? T'sais, j'ai l'impression que quand c'est personnel à Donald Trump, son influence est beaucoup plus grande que pour le reste. C'est sûr que Marjorie Taylor Greene et une autre poignée de républicains sont encore vraiment derrière Donald Trump. Ils ont refusé de voter parce qu'il faut le dire, Mike Johnson, sans l'aide des démocrates, c'est mort. Il y en a pas de aucun des projets de loi, aucun des budgets. Il y a quand même une majorité de républicains qui ont voté contre. Alors, on le voit qui est encore là, le pouvoir de Donald Trump. Est-ce qu'il est aussi grand qu'avant? Pas nécessairement. Puis Mike Johnson, c'est particulier. Il y a l'appui